RFI, grand reportage.
Amélie Tullet.
Bonjour à tous. Un an après l'affaire Weinstein à Hollywood et le lancement du hashtag MeToo, le mouvement de libération de la parole sur les agressions contre les femmes a essaimé dans le monde entier. En Suède, pays du nord de l'Europe connu pour son progressisme, des pétitions pour dénoncer le harcèlement sexuel se sont multipliées, et ce dans tous les milieux. Le gouvernement a débloqué des fonds, une loi sur le consentement a été votée et la condamnation pour viol du français Jean-Claude Arnault, proche de l'Académie Nobel, a eu un retentissement au-delà des frontières suédoises. Un an après MeToo, la Suède, laboratoire des nouvelles relations hommes-femmes, c'est un grand reportage de Frédéric Faux.
Anklagelserna mot den så kallade kulturprofilen ledde till Svenska Akademins kris.
Kulturprofilen Jean-Claude Arnault inleddes idag.
Ce 1er octobre, à Stockholm, Jean-Claude Arnault était condamné à 2 ans de prison pour viol. Ce Français, installé en Suède, devenu une figure du monde culturel, utilisait ses relations et son influence pour obtenir des faveurs sexuelles. Son procès, qui fait suite au témoignage de 18 femmes qui l'ont accusé de diverses agressions dans la presse, est considéré comme le premier de l'ère MeToo. Ce mouvement de libération de la parole des femmes qui a suivi l'affaire Weinstein est né il y a un an. Il a depuis traversé le monde entier, mais a eu un impact particulier en Suède. Dans ce pays où l'on ne plaisante pas avec l'égalité ni avec le droit des femmes, les pétitions pour dénoncer le harcèlement ne se sont pas limitées au monde de la culture ou des médias. Il y en a eu des dizaines, dans tous les milieux. Le retentissement a été considérable. L'une des incarnations de MeToo ici, c'est Alexandra Pascalidou, femme de télévision, auteure, violée à l'âge de 14 ans.
Alexandra Pascalidou, je m'en suis écrit un livre.
Nous la rencontrons à la sortie d'un plateau où elle vient de présenter son dernier livre.
Non, donc j'ai fait le premier MeToo book in the world.
J'ai fait le premier livre au monde consacré à MeToo, car je me suis très vite rendu compte qu'une révolution commençait. Plus de 100 000 femmes ont signé des pétitions en Suède, ce qui est énorme. Elles venaient de toutes les professions. MeToo a montré que ces agressions sexuelles existaient dans toutes les classes sociales, dans toutes les cultures. Si MeToo a eu un tel impact en Suède, c'est que les bases étaient déjà là. On a eu un mouvement féministe très fort. Notre précédent gouvernement se revendiquait féministe, ce qui n'est pas très commun. Je suis contente de vivre dans un pays qui prend ces choses-là au sérieux.
En Suède, c'est un fait, le droit des femmes est un élément du débat politique depuis des décennies. Dans tous les classements, et notamment le dernier baromètre européen sur l'égalité des genres, la Suède est en tête. Des acquis qu'Alexandra Pascalidou reconnaît, mais qui ne l'incite pas à relâcher sa vigilance.
MeToo, ce n'est qu'un début. Vous avez des problèmes à plein de niveaux différents quand vous vous attaquez à l'égalité des sexes. La question des salaires, par exemple. Même en Suède, vous gagnez plus si vous êtes un homme. Si vous êtes un homme, vous atteindrez des postes plus élevés, plus facilement. Parce qu'ici, les décisions sont prises dans les saunas où les femmes ne peuvent pas entrer, ou dans les clubs de golf. Ce n'est pas un pays parfait, mais je suis convaincue que tout ça va changer.
Pays parfait ou pas, la Suède est en tout cas un pays à part. Et c'est encore plus vrai lorsque l'on quitte le social, la politique, pour s'intéresser à la vie privée. ABBA, groupe suédois mythique, nous avait donné une image parfaitement paritaire et joyeuse des relations hommes-femmes. Elle chante, il joue en parfaite harmonie. Mais dans la réalité, les choses sont un peu plus compliquées. Nous sommes dans un des bars branchés du centre de Stockholm, où les Suédois viennent socialiser après le travail, le vendredi soir. Beaucoup de groupes d'hommes autour des tables, beaucoup de femmes entre elles, mais finalement assez peu de contacts. C'est en tout cas ce que constate Peter, 25 ans.
Je pense que c'est plus difficile ici en Suède que dans d'autres pays en Europe. C'est lié à notre façon d'être en général. Nous sommes plus introvertis. Ça demande beaucoup de courage pour un Suédois d'approcher une fille. La plupart ont peur. Ils se disent entre eux, « Ah, je devrais y aller, je devrais parler à cette fille. » Mais ensuite, ils estiment que ce n'est plus si important parce qu'elle vous a regardé de telle façon, qu'elle a envoyé tel message et on se dit qu'elle est déjà prise par quelqu'un d'autre. C'est le genre de discours que l'on entend souvent chez les Suédois.
Assise à une autre table, Émilie, suédoise élevée en France, fait le même constat, mais vue de l'autre côté de la tranchée.
Je trouve qu'en France, les rapports hommes-femmes sont plutôt francs. J'ai aucune difficulté à avoir une amitié avec un homme ou aussi à dire très franchement à un homme qui me plaît. Voilà. Alors, ici, par contre, en Suède, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Enfin, je ne sais pas, c'est un pays culture puritaine, voilà. Les hommes suédois, et pourtant on est à Stockholm, hein, une grande ville, ils sont pas très entreprenants, faut le dire quand même. En Suède, il y a beaucoup de... Les gens aiment vivre dans la sécurité, qui s'appelle trygghet. Cette culture de la sécurité influence aussi les rapports hommes-femmes, parce que dans la rencontre, tout doit être défini par avance. Si tu te mets à parler à un inconnu dans le métro, on va te prendre pour une folle. Il n'est pas possible de voir quelqu'un comme ça sans savoir mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on va faire. Et donc forcément, ça limite les rencontres amoureuses, parce que c'est la culture du non-risque. Voilà.
Cette difficulté à communiquer de façon spontanée, très ancrée dans la culture suédoise, ne s'est pas arrangée avec MeToo. C'est ce qu'a constaté le psychologue Armando Osses, qui intervient comme volontaire dans une association d'écoute, le Refuge des Hommes. Des hommes qui parfois ont perdu pied.
Après MeToo, beaucoup de mâles blancs suédois se disent que le seul fait de parler à une fille pourrait passer pour une offense. C'est pour cette raison aussi que la galanterie n'existe pas en Suède. Être galant, ça peut vouloir dire que vous, en tant que femme, vous n'êtes pas assez forte pour ouvrir la porte. Vous êtes trop pauvre pour payer votre repas au restaurant. Pour une femme indépendante, c'est une offense. Tout cela crée une grande insécurité chez les femmes comme chez les hommes, car ils ne savent plus comment se comporter les uns envers les autres. Qu'est-ce que l'on attend d'eux ? Cela crée de l'insécurité, mais aussi de la colère. Il y a des hommes qui sont ennuyés parmi tout, qui disent que ce féminisme, c'est une haine des hommes. Ils parlent de féminazie. Donc oui, c'est un peu une guerre des sexes.
Guerre des sexes. Le terme est un peu fort, mais il illustre une certaine tension palpable, notamment sur les réseaux sociaux. Cette vidéo est tirée du compte Instagram de Linnea Claesson, intitulée Assholes Online, les trous du cul en ligne. Cette handballeuse professionnelle, figure du féminisme en Suède, y dénonce ses harceleurs, images à l'appui. Elle flirte parfois avec la loi, mais assume complètement ses méthodes.
Je montre le harcèlement sexuel que je subis sur le net. Et je me moque de certains de mes prédateurs, je les dénonce. Parfois, je les dénonce même auprès de leur mère et je mets ça en ligne. Ça rend les hommes très en colère. Ils pensent que je n'ai pas le droit de leur répondre ou ils n'ont pas l'habitude que leur comportement ait des conséquences. Donc, ils m'envoient parfois des photos de leur sexe. Moi, je la récupère et je la mets sur leur mur Facebook. Ça les fait enrager. Je reçois des menaces de mort, d'enlèvement, de viol chaque semaine.
Death threats, kidnap threats, rape threats, like every week.
La libération de la parole des femmes, c'est l'une des conséquences de MeToo en Suède. Mais ce n'est pas la seule. Le gouvernement est aussi passé à l'action, avec des fonds destinés à lutter contre les discriminations, des lois qui ont été votées. La plus emblématique d'entre elles est la loi sur le consentement, entrée en vigueur le 1er juillet. Pour Linnea, il s'agit d'une véritable avancée.
This law is just stating that if you should have sex with someone, the other person should...
Cette loi dit juste que si vous avez une relation sexuelle avec quelqu'un, ce partenaire doit le faire librement, de sa propre volonté. C'est tellement simple, tellement basique, que je suis surprise qu'il ait fallu attendre tant de temps pour ça. Par vos mots, par votre langage corporel, vous devez montrer que vous voulez avoir une relation sexuelle. Lorsqu'une fille est trop ivre pour consentir, ou quand elle est trop effrayée, on ne pourra plus s'en sortir en disant « Oh, je pensais qu'elle était consentante ». Au final, ce sera toujours parole contre parole. Avec cette loi, il n'y aura peut-être pas plus de condamnations, mais on peut espérer que grâce à elle, il y aura moins de viols.
But it's gonna mean, hopefully, that we're gonna have like less rape cases.
La Suède essaie d'être à la pointe, toujours. Autour des aires de jeux pour enfants, en pleine semaine, les pères sont presque aussi nombreux que les mères. La Suède offre à ses salariés des congés parentaux qui sont parmi les plus généreux au monde. 15 mois à se partager entre les parents, avec 80% du salaire. Et les hommes sont incités à prendre leur part. Les plus motivés d'entre eux fréquentent même des groupes de pères, où ils peuvent échanger leurs expériences. C'est là que nous retrouvons Frédéric et Eric, deux jeunes papas qui se retrouvent souvent dans les parcs de Stockholm avec un gobelet de café au lait à la main. En Suède, on appelle ça les papas latte.
C'est un terme qui peut paraître un peu péjoratif, mais je pense que c'est super. Vous passez du temps avec votre enfant en buvant du café toute la journée, et vous pouvez le faire pendant longtemps au lieu de travailler. Moi, j'ai pris mes 8 mois tout d'un bloc. Mon patron ne peut rien me dire, ce n'est pas un sujet de discussion.
As he said, it's a right in Sweden to take parental leave, and it's
comme il dit, c'est un droit en Suède de prendre son congé parental et c'est important pour moi car je veux passer du temps avec mon enfant. Plus tard, il pourra se tourner vers moi pour parler d'un problème, comme il pourra le faire avec sa mère. Et c'est un bénéfice pour la société car les études montrent qu'un enfant qui a de bons contacts avec son père a moins de chances de devenir délinquant ou criminel. Donc je pense que le père a un rôle important à jouer. Même si on n'en est pas encore là dans notre pays, c'est un changement qui va arriver.
Jens Karberg, qui supervise ces groupes de discussion, se félicite de voir de plus en plus de pères, même si ce modèle suédois pourrait être encore amélioré.
80% of all parental leaves.
Aujourd'hui, 80% des jours de congés parentaux sont encore pris par les mères. La tradition veut d'une certaine façon qu'une femme, au début, doit rester à la maison avec son enfant. Si vous reprenez le travail après la naissance, les gens vont vous regarder bizarrement. Mais les hommes politiques pourraient changer ça avec un système où un tiers des congés parentaux serait pour le père, l'autre pour la mère et un dernier tiers à se partager entre les deux. Ce serait bon pour la société et surtout pour l'égalité des salaires entre hommes et femmes. Mais jusqu'à maintenant, le gouvernement n'a pas eu le soutien politique pour ça.
Les autres habitudes que la Suède veut faire bouger sont celles du monde du travail. Nous sommes dans un séminaire de formation organisé par Allbright. Tous les ans, cette fondation publie un baromètre de la position des femmes au sein des grandes entreprises suédoises. Quelle est leur présence dans les équipes de management, dans les conseils d'administration? Et les résultats, comme le déplore Jennifer Rosten, ne sont pas à la hauteur d'un pays comme la Suède.
On a comparé les différents secteurs de la société suédoise et on s'est aperçu que les entreprises étaient en dernière position sur l'égalité des sexes. On parle des femmes qui sont dans des positions de direction. Dans la politique, vous trouvez 49% de femmes, 23% dans l'église, ce qui n'est pas terrible. Mais dans les entreprises, on tombe à 10%. Nous avons fait trois listes, une liste verte avec les entreprises où il y a au moins 40% de femmes dans le management, une liste jaune quand il y a au moins une femme et une liste rouge quand il n'y a aucune femme. On rend tout ça public et c'est la honte pour ces entreprises. C'est une méthode controversée, mais ça marche.
Jennifer Rosten propose une méthode, notamment une transparence dans le recrutement, des plans d'action, des objectifs. Et depuis un an, ses services sont encore plus demandés.
Quand MeToo a explosé en Suède, Allbright a fait un rapport que nous avons envoyé à tous les députés et à tous les patrons. Ils ont réagi instantanément en disant « Voilà, on va régler ce problème dans notre entreprise, on va améliorer les choses. » Bon, c'est juste 10% des patrons qui ont réagi immédiatement. Les autres, 90%, sont restés silencieux. Mais il s'est passé quelque chose pendant cette année.
La ville de Stockholm a encouragé cette évolution en créant, il y a quelques mois, un réseau d'entreprises baptisé A Woman Place, où les femmes peuvent s'épanouir. Julika Lambert dirige Invest Stockholm, institution chargée de promouvoir la capitale suédoise auprès des investisseurs.
On March 8 this year, Stockholm as a city declared itself.
Le 8 mars dernier, Stockholm s'est autodéclarée a woman place. Nous avons été suivis par 100 entreprises, comme la compagnie de télécom Telia, Ericsson, Spotify. Leur point commun, c'est qu'elles s'engagent à donner des chances égales aux femmes comme aux hommes. Nous avons besoin de tous les talents, et les femmes, quand elles viennent ici, parlent d'une ville où elles se sentent libres, confiantes, où elles peuvent s'accomplir. Nous voulons être à la pointe, et pour ça, nous devons nous intéresser à des sujets comme celui-ci.
to drive the change. And in order to do that, we need to address topics like this.
La société suédoise change avec ses avancées, mais aussi ce que certains qualifient d'excès. C'est ainsi le seul pays au monde à avoir changé sa grammaire pour introduire le hen, un pronom neutre, mais qui n'a pas eu le succès escompté. Le déneigement égalitaire fait aussi polémique. Certaines villes, dont Stockholm, ont en effet décidé de déblayer la neige d'abord sur les trottoirs, plus fréquentés par les femmes et leurs poussettes, et de terminer par les routes, où les voitures sont conduites de préférence par les hommes, ce qui a entraîné de nombreux embouteillages l'hiver dernier. Plus généralement, cette marche des femmes vers l'égalité laisse certains hommes désemparés. C'est ce que constate le psychologue Armando Osses.
La Suède est l'un des pays les plus égalitaires au monde. Ce pays n'a pas connu la guerre depuis des siècles. On n'a pas besoin de machos ici. Par conséquent, les hommes ont pris de plus en plus de responsabilités dans le foyer. Cela a donné des hommes en Suède qui sont donc plus prudents, plus sages, mais aussi moins sûrs d'eux. Je rencontre beaucoup d'hommes qui se posent des questions. Est-ce que je suis toujours un homme ou pas? Qu'est-ce qu'on attend de moi?
La réponse à cette question, certains hommes viennent la trouver dans un théâtre de Stockholm. Debout, habillé de noir, Herman Ottosson donne ses instructions. Sur le sol, allongé sur des matelas, une vingtaine d'hommes respirent ensemble, collés les uns aux autres.
Ce soir, nous allons travailler sur la respiration. Nous allons pratiquer la respiration tantrique en trois parties, pour pouvoir nous connecter profondément à la respiration d'un autre homme, à sa force vitale. Là, ils sont allongés en position fœtale. Je veux qu'ils soient très calmes. Nous travaillons aussi sur l'homophobie. Il faut pouvoir être proche du corps d'un autre homme sans que ça paraisse bizarre. On peut se nourrir de la proximité d'un autre homme. On doit être dans un endroit où il n'y a pas de fenêtre et où nous pouvons faire beaucoup de bruit. On ne veut pas déranger les voisins. Et on fait pas mal de choses assez folles. Je veux que personne ne puisse nous entendre ou nous voir.
Herman est le créateur de Raw Man, que l'on pourrait traduire par « l'homme cru » ou « l'homme brut ». Il organise des stages de 10 semaines au prix de 1800 euros pour aider les hommes à retrouver leur masculinité. Ce qui se passe dans le théâtre, devant rester dans le théâtre, nous nous retrouvons dehors, sur une terrasse.
Me Too Movement is put a light on something good. But there's a lot of side effects.
MeToo a été quelque chose de bien, mais il y a beaucoup de dommages collatéraux. La masculinité est en crise, spécialement en Suède. Les hommes sont castrés, ils n'osent plus, ils ne s'affirment plus. Ils ont peur d'être perçus comme des menaces. Et ici, les femmes ne veulent plus d'eux. Elles sont autonomes, elles n'ont plus besoin d'hommes, Enfin si, quand elles arrivent à l'âge de 36 ans, 38 ans, et qu'elles veulent un enfant, elles vont au Danemark pour acheter du sperme. C'est triste. C'est pour ça qu'on a le record de gens qui vivent seuls en Suède. J'aide les hommes à retrouver une direction dans la vie, à aller au-delà du seul esprit de compétition, à ouvrir leur cœur aussi. Les hommes parlent très rarement de leurs sentiments. Et c'est très relaxant pour eux de se retrouver non pas autour d'une bière et d'un match de foot, mais pour se demander « Mon frère, comment tu vas, vraiment ?» Je ne fais pas de conférences, je travaille avec le corps. Je travaille sur leur sexualité, leur santé et tout. Je suis très serein par rapport à ce que je fais car je rends service aux hommes, mais aux femmes aussi. Des femmes envoient leur mari vers moi quand elles pensent qu'il est trop faible, ou perdu, ou trop féminin. Elles me le confient et moi je leur retourne un nouvel homme. Je garantis le changement.
I guarantee change.
Quelques semaines après le début de MeToo l'année dernière, 7 Suédois sur 10 pensaient déjà que ce phénomène aurait des conséquences à long terme. L'avenir, finalement, leur aura donné raison. Un an après MeToo, la Suède, laboratoire des nouvelles relations hommes-femmes. Un grand reportage de Frédéric Faux, réalisation Pierre Chaffanjon.